Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
J'ai adoré vous raconter cette histoire et je souligne la merveilleuse réalisation de Mathieu Frette aujourd'hui avec des musiques d'époque, des années 50 pour certaines d'entre elles. Nous allons débriefer ça avec vous Bernard Hauteclocq, vous êtes historien, vous êtes membre de la Société Française de l'Histoire de la Police et je signale votre dernier livre aux éditions du Félin, La République face à la rue. Je ne mens pas quand je dis, Bernard Hauteclocq, que c'est une affaire célébrissime à l'époque.
Exactement. On peut dire qu'elle a, elle a vraiment défrayé la chronique. C'est d'ailleurs, tout le monde, on ne peut que souligner la disproportion entre son caractère, vous avez parlé de minable, et vous avez raison, et l'extraordinaire retentissement qu'elle a eu en 1956-58.
Mais ça tient à quoi, à la notoriété de la tata de Nicole Dépouet, Anita Soler, qui était comédienne?
Ça a pu jouer son rôle, mais je dirais surtout l'aspect énigme entre la découverte du crime et la découverte des assassins. Il s'est passé un mois, et bon, c'était la trêve des confiseurs. Il y avait une relative pause de l'actualité, donc la presse s'en est donnée à cœur joie. Et également le fait qu'il s'agissait de victimes jeunes. La fille était plutôt jolie, c'était des gens très sympathiques, donc il y avait une très forte empathie du public pour les victimes. Et au contraire, une très grande sévérité envers les deux assassins quand on les a trouvés.
Alors le mobile de ce double meurtre, Bernard Hauteclocq, est stupéfiant. Donc il les tue dans leur voiture pour leur voler la voiture. Mais comme il y a des taches de sang forcément dans la voiture, ils se disent qu'ils vont se faire repérer. Donc ils se contentent de voler le contenu du portefeuille, ils vont abandonner la voiture. C'est pas des professionnels.
C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a également, parce que bon, quand la police a trouvé le crime, alors l'argent avait disparu, mais ni leur montre, qui avait une certaine valeur, ni le manteau, elle portait un manteau de fourrure. Mmh. Alors bon, c'est pour ça que la piste est d'abord orientée soit vers un malade, soit vers une vengeance. Il y a également un détail, pour préparer le hold-up, bon, vous l'avez très bien dit, Vivier, c'était le petit coq, le dominateur, et Sermeuse, c'était l'imbécile prêt à faire n'importe quoi pourvu qu'on le prenne au sérieux. Et il avait fait croire, ni l'un ni l'autre n'avait de permis de conduire. Et Sermeuse, pour se mettre en valeur, avait affirmé, c'était faux, qu'il savait conduire les voitures, mais seulement les 203. Et c'est pour ça qu'ils avaient volé la 203. Et Sermeuse avait également révélé un autre détail, c'est qu'il ne savait pas faire démarrer la voiture. Donc il leur fallait une voiture dont le moteur tourne. Et c'est pour ça qu'ils avaient jeté leur dévolu là-dessus, qu'ils avaient tué les deux occupants. Mais Sermeuse a pris le volant, mais il avait menti, il ne savait pas conduire la voiture. De Saint-Cloud à Sèvres, je crois qu'il y avait 3 km, il a eu, il a froissé son garde-boue, il a renversé une poubelle. Enfin bref, c'est en partie pour ça qu'ils ont abandonné la voiture 10 minutes après l'avoir volée.
Le psychiatre dit qu'ils sont débiles, et en même temps, à côté, on découvre qu'ils ont une enfance et une adolescence absolument pitoyables.
Très pitoyables. Bon, un tel niveau de débile, je ne sais pas, mais du niveau d'une intelligence très basse. Et bon, alors, l'orphelinat d'Ando n'était pas particulièrement mal tenu ni particulièrement dur, mais il n'empêche que à l'âge, je crois qu'il Sermeuse y est allé à l'âge de 7 ans et Vivier à l'âge de 10 ans. Bon, c'est la petite en passé son enfance là-dedans. Et ce qui est encore plus cruel pour Vivier, ça explique peut-être son caractère aigri, c'est que lui n'était même pas vraiment orphelin. Sa mère, il était de père inconnu, mais sa mère avait décidé de le mettre à l'orphelinat, qui était femme de chambre dans un hôtel de Clermont-Ferrand, a décidé de le mettre à l'orphelinat parce qu'elle ne pouvait pas en faire façon. Et ça a sûrement pas dû contribuer à la bonté de son caractère.
Est-ce qu'elle a été, Bernard Hauteclocq, exploitée par l'opinion et par la presse, cette affaire? Quand je dis exploitée, j'ai envie de dire pour des raisons politiques.
Pour des raisons politiques, alors pas strictement politiques, mais elle a été, je dirais, pour des raisons sociétales. Vous savez qu'il y a plusieurs années, quand j'ai travaillé sur cette affaire, ce qui m'avait vraiment surpris, c'est la dureté, la sévérité avec lesquelles les médias de l'époque, essentiellement la presse écrite, avait traité les deux criminels. Bon, il faut savoir, À l'époque, la presse ne s'embarrassait pas de présomption d'innocence et elle avait tendance à être beaucoup plus dure que les médias d'aujourd'hui envers les délinquants. Mais envers Sermeuse et Vivier, ils ont été particulièrement durs. Ils réclamaient la guillotine dès leur arrestation. Je crois que, alors bon, c'est moins de l'histoire que de la sociologie, mais je crois que le contraste entre les deux victimes, sympathiques, comme il faut, tout pour eux, et les deux assassins, qui eux n'avaient vraiment rien dans leur faveur, a vraiment, ce contraste a été très public, a donné un très gros retentissement à l'affaire.
Mais qu'est-ce qui représente, j'ai envie de dire, en fait, sociologiquement, politiquement, ces deux sales types à l'époque?
C'était les années 1950, c'est l'émergence de la culture jeune. C'est l'époque de Salut les copains, qu'on avait d'ailleurs rebaptisé très significativement Salut les voyous.
L'émission d'Europe 1, hein.
Enfin, alors, elle date de 1959, mais c'était déjà dans l'air du temps. C'était l'émergence de la culture jeune, en grande partie d'ailleurs importée d'Amérique, les livres de la série noire, les films policiers d'Hollywood, plus ou moins imités en France, les lunettes noires, la coupe à la Elvis Presley que justement Jean-Claude Vivier arborait lors de son arrestation. Bref, une grande partie des médias, aussi bien d'ailleurs les communistes que la droite, étaient d'accord pour stigmatiser cette jeunesse pervertie, ceux à qui il aurait fallu une bonne guerre, et les opposer aux victimes sympathiques, travailleurs, et qui avaient tout pour eux.
Dans la même ligne, le procès, il est donc couvert par deux écrivaines qui sont déjà célèbres à l'époque et qui le demeurent encore plus aujourd'hui, Françoise Sagan et Marguerite Duras. Pourquoi est-ce qu'on les envoie au procès? C'est une envie de sensationnalisme, c'est pour la presse?
Alors, dans le cas de Françoise Sagan, oui, c'est certainement le cas. Vous l'avez dit, c'était un coup médiatique soigneusement monté par Lazareff. C'est d'autant plus méritoire qu'elle avait eu un accident de voiture quelques mois plus tôt. Donc, je crois qu'elle arrivait sur des béquilles au procès. Alors, Duras, c'est... Alors Duras, on l'apprécie ou on l'apprécie pas. Effectivement, c'est une toute autre perspective. Alors elle, par contre, c'était politique.
Il s'agit de pointer du doigt le fait qu'en gros les victimes sont des petits bourgeois parisiens et que les auteurs sont des pauvres types qui ont grandi en orphelinat.
Effectivement, c'était une conception marxiste. Alors, dans quelle mesure Marguerite Duras elle a été marxiste? Est-ce qu'on peut encore la qualifier de marxiste en 58? Bon, je laisse ça aux spécialistes. Mais il faut quand même souligner que son point de vue était son point de vue de chercher des excuses aux deux assassins était extrêmement minoritaire, y compris au sein de la gauche. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que je me demande si elle était encore marxiste à l'époque, le Parti communiste était encore au moins aussi sévère que la droite pour juger les délinquants et la délinquance. La délinquance juvénile, justement, ça encore, c'était quelque chose de nouveau à l'époque, et plus ou moins importé d'Amérique.
Moi, je me souviendrai de l'expression de Marguerite Duras, des cadres, des cancres condamnés par des premiers de la classe. C'est comme ça qu'elle résume le procès.
Oui, c'était assez bien. Alors, résumer le procès, disons que c'est un point de vue pertinent. Oui. De là à ce que ça résume toute l'affaire. Bon.
Alors, on rappellera quand même que Marguerite Duras fait là ses débuts dans la couverture de procès et qu'elle va couvrir deux grandes affaires criminelles dans les années et les décennies qui vont suivre. L'affaire de Bruet en Artois, dans laquelle elle va prendre position contre le notaire, et l'affaire Grégory, dans laquelle elle va suggérer que Christine Villemain, la mère de Grégory, est forcément coupable, parce qu'elle l'a ressentie devant la maison. Voilà.
Oui, ce que la mère n'a d'ailleurs pas beaucoup apprécié.
À juste titre. Ils ont été tous les deux condamnés à mort en 1958. C'est un moment important puisque on est à quelques mois de l'avènement de la Ve République et de la mort donc de la IVe République. Et donc, on a affaire au président René Coty qui est le dernier président de la IVe République. Sur le papier...
Qui est avocat voilà. De profession. Je crois que c'est pas mal de le rappeler.
Et qui est opposant, a priori, à la peine de mort. Mais il ne les gracie pas tous les deux.
Oui. Vous dites opposant à la peine de mort. Alors, il est certain qu'il a accordé sa grâce beaucoup plus souvent que son prédécesseur... qui lui aussi était un... qui est Vincent Auriol, qui lui aussi était un avocat. Mais... disons qu'il n'était pas systématiquement, il ne les graciait pas systématiquement, très loin de là.
Donc là, il a fait 50-50.
Voilà. Bon, je pense que Sermeus, avec son intelligence très basse, son influençabilité, ses avocats, parce que le président recevait les avocats des condamnés avant de se décider s'il accordait sa grâce ou pas, je suppose que les avocats de Sermeus ont bien su plaider son cas.
Je vous remercie beaucoup, Bernard Hauteclocque, comme d'habitude. Vos débriefs sont passionnants. Je ne sais pas ce qu'on ferait, car on ne trouve pas, bien entendu, de témoins directs. Si vous n'étiez pas là, on chercherait des gens encore vivants qui étaient magistrats ou avocats dans les années 50, et on irait les voir au cimetière du Montparnasse.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.